Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Au fil des bobines, l'émission de cinéphiles sur Suzef 91.1 FM. Aujourd'hui, c'est la première émission de la saison. Voilà, on fête ensemble notre nouvelle programmation, une programmation plutôt solaire en fait. On est assez content de cette programmation là qu'on vous propose à cinéphiles sur les mois de septembre et octobre. On a plusieurs comédies notamment qui sont présents. On va parler dans cette émission de deux films, de El Professor et de Gondola. On commence par parler du film El Professor, et pour moi, pour en parler, j'ai donc Martine, qui fait l'honneur de revenir pour cette nouvelle saison. Ça va, Martine ?
Ça va.
Ça va, content d'être de retour au micro pour...
Ben oui.
Pour parler de notre nouvelle programmation et de nouvelle saison qu'on va vous proposer toute cette année.
El profesor de filosofía es un lujo, una eminencia. Desde que toma clase con usted, está mucho más despierta.
Me conocen ahora y dicen, ahí va Marcelo, el profesor de filosofía, el pelado.
Gordo boludo, mirá cuando cruzás.
Gordo.
La cátedra necesita un titular.
Además sabes perfectamente qué es lo que Eduardo hubiera querido. Tenés que presentarte.
¿Qué?
Perdón, profesor, estaba en la masterclass.
¿Qué masterclass?
La del profesor Rafael Suharchuk.
Rafael Suharchuk preguntando por las fechas del concurso.
Tiene un rival muy duro, Marcelo.
Weil Glückseligkeit nicht dein Ideal.
Se puso a hablar en alemán, ¿puedes creer?
Viste que parece que está saliendo con Vera Mota. Es una bomba.
¿Qué caradura este tipo?
La Mota lo vi en la tele.
¿Y?
¿Y qué?
Qué compulsión que tienen ustedes, ¿no? De atarse a la facultad como si ahí se terminase el mundo.
El único lugar en el que soy algo es en Juan.
Juan no es un feudo por nosotros el cacique.
Marcelo.
Donc El Professor, un film de Maria Alchier et Benjamin Nesta.
Voilà.
Film argentin que tu as vu du coup au Festival de La Rochelle.
Voilà, c'est ça.
J'aimerais bien que tu m'en parles un petit peu.
Alors, oui, c'est un film que j'ai découvert au Festival de La Rochelle parce qu'il y avait une rétrospective de Benjamin Neustadt. J'ai du mal à le prononcer. C'est quatre films, dont Rojo, qu'on avait passé l'année dernière, ou il y a deux ans, je ne sais plus quoi.
Deux ans, je pense, plutôt.
Oui, il y a deux ans. Mmh. Et là, donc, du coup, c'est depuis quelques années, La Rochelle invite des réalisateurs. Et il y a des masterclass qui sont faites avec des critiques de radio. C'est très intéressant. Mmh. C'est très intéressant. Donc, il a pu un peu parler de son cinéma. Et surtout, il y a tous ces quatre longs étaient en projection. Et donc, ce dernier film, il l'a réalisé avec sa compagne. Donc, c'est un film de couple, comme ça se fait un peu actuellement d'ailleurs. Parce que,
oui, il y en a plusieurs. Oui.
Bah, il y a Trouéba, là, Septembre sans attendre.
Ouais,
il
ouais.
y avait Justine Trier, Harry.
Il n'était pas réalisateur à Harry, mais oui, c'est vrai qu'ils ont fait le film un peu tous les deux.
Ouais, ouais. Et c'est un film de couple, et je trouve que ça donne une dimension comme ça d'être deux, d'être homme-femme.
Maria Alchi, est-ce qu'elle avait fait des. Elle est actrice d'abord,
ouais,
d'accord.
Elle est actrice. Donc voilà, ça c'était la petite aventure. Donc là, ce film-là, il est sorti en Argentine en 2023, et ça a été vraiment la coqueluche de tout le pays.
Gros succès en Argentine.
En Argentine, parce qu'il a eu une vraie ovation avec un public assez large. Et juste pour parler de la situation politique, depuis janvier 24, c'est un ultra-libéral extrême droite qui est au pouvoir. Et donc ce film, je ne vais pas révéler la fin du film, mais... Il y a comme quelque chose de visionnaire, en fait, sur l'état actuel du service public là-bas et aussi de l'université.
Alors, c'est un peu plus en reparler de quoi parle le film, finalement. Ça parle tu vas m'en dire un peu plus, mais du coup, on met en avant... Deux professeurs de philosophie qui vont se retrouver après la mort d'un de leurs collègues. Mmh. Voilà, et si tu peux m'en dire un peu plus.
Alors voilà, là, ça se passe à l'université, enfin en grande partie à l'université de Buenos Aires, qui est une université publique sur la philo, la littérature, etc. Qui, c'est pour ça que je fais un pont, n'a plus du tout de crédit actuellement. Et donc, effectivement, la chaire de philosophie est libre puisque le professeur Caselli meurt d'un infarctus. Et le héros du film, on va dire, Marcello Subito, qui est plutôt un anti-héros, un peu maladroit, avec ce deuil, parce que c'est aussi le deuil d'une certaine... aura de la vie, enfin c'est le deuil d'une philosophie à l'ancienne, on va dire. Et là, lui, il est dans un virage, un questionnement à tous les niveaux sur sa vie, son rôle de père, sur la philosophie, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter maintenant, etc. Et donc ces questionnements, c'est lui qui est porteur du comique, parce qu'on dit que c'est une comédie quand même.
Oui, oui, parce qu'il y a quand même, il y a plusieurs scènes un peu cocasses, d'humour un peu de l'ordre un peu du burlesque, du quiproquo, voilà, etc. Ouais. Sur, enfin, il y a une scène où il s'assoit sur une couche de bébé, et il y a tout, c'est le début du film, ça, oui, et il y a tout voilà, oui, il faut qu'il change de pantalon en même temps, au même moment, on lui demande d'aller assister au pot commun de leur ami décédé, enfin, et du coup, voilà, il y a plusieurs situations cocasses là-dessus. Voilà. C'est le personnage, disons, qui
c'est
est...
c'est lui qui porte. Ouais. Ce comique,
il a un petit côté Pierre Richard sur certaines situations, pas dans le jeu, hein, mais dans la situation dans laquelle il est présenté un petit peu. Ouais, on va jouer sur sa maladresse, sur les situations dans lesquelles il se retrouve. Voilà. Mais son collègue aussi a une autre aura comique aussi.
Alors, son collègue, oui, en fait, c'est un professeur de philo, ils se sont connus, mais lui, je ne sais plus comment il s'appelle. Il a choisi l'exil, c'est-à-dire qu'il est enseignant de philosophie. Il a été aux États-Unis, en Allemagne. Et donc, son retour, au moment où la chaire de philo de l'université est libre, fait que il représente, en fait, la philosophie moderne, la philosophie paillette.
C'est-à-dire, en fait, c'est une sorte de starification de la philosophie, chose qu'on voit beaucoup en ce moment, en fait. Là, c'est un film argentin, mais bien, si on regarde juste la fenêtre de notre pays, sur nos médias français, on voit bien qu'il y a une sorte de starification de ce qu'est la philo. On voit toujours les mêmes qui passent dans les mêmes médias, qui se donnent l'étiquette de philosophe, mais qui peut-être en perdent un peu l'essence de départ, peut-être.
Voilà, c'est ça. Et donc, il y a une rivalité, mais qui est plutôt douce, on va dire, parce qu'ils se connaissent depuis longtemps, et ils ont aussi l'amour de la philosophie, tous les deux. Mais on voit bien que la chaire va être occupée par ce cacou, ce professeur... qui représente aussi l'exil de tous l'intelligentsia au moment de la dictature. Enfin, je veux dire, ce film, il est plein de petits rappels comme ça de la situation en Argentine. Mais bon, on dit que c'est une comédie burlesque, c'est vrai. Déjà dans la forme, il utilise la fermeture à l'iris. Qui a un clin d'œil, ce qu'elle veut dire, au burlesque. Mais il y a aussi une comédie sociale, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ingrédients dans le film qui dit qu'est-ce que c'est l'Argentine. Ça dit l'Argentine,
bien sûr.
En fait.
Mais après ça, le comique n'est pas là que pour faire des blagues. Hein. Le comique, pour moi, raconte aussi des choses très sérieuses et très fortes, mais qui utilise l'argument et les situations de comédie, des fois, pour pouvoir mieux faire comprendre le message porté, pour mettre en situation certains peut-être moments qu'on peut trouver ridicules, parce que malheureusement, des fois, dans des choses très sérieuses, il y a aussi beaucoup de ridicule, dans beaucoup de problèmes actuels, beaucoup d'absurdité. Et le film joue aussi sur cette carte-là, quoi.
C'est ça. Et donc, comédie burlesque et comédie sociale, parce que... la femme de ce professeur, elle est militante sociale. Comme les salaires dans la fonction publique en Argentine arrivent un peu tous les 3-4 mois, en retard. Il donne des cours à une vieille dame, des cours de philosophie sur Heidegger. J'ai une vieille dame. Il va donner des cours dans un milieu social pauvre. Et donc, au-delà de tout ça, il y a la question de la philosophie. Effectivement, on assiste à comment la philosophie, à travers le questionnement qui subit à la suite de la mort de son mentor, et puis ce questionnement sur sa vie, en fait, c'est une espèce de... Il se pose la question, mais la philosophie, ça sert à quoi, quoi ? On a toujours besoin de se référer aux philosophes des Lumières, ou est-ce que maintenant il n'y aurait pas des nouveaux philosophes qui parleraient de la situation actuelle, etc. Et donc lui, on sent qu'il est pour une philosophie de la vie quotidienne. Et à travers les cours, parce qu'on assiste à des cours, soit des cours magistraux avec ses étudiants, soit les cours qu'il dispense dans les favelas, on va dire, ou chez les bourgeois. Et là, il est question de thèmes genre l'avenir, l'existence, qu'est-ce que l'identité, qu'est-ce que le peuple. Et ces questions-là sont distillées avec parcimonie, mais posent la vraie question de la place de la philosophie dans l'existence et dans le monde.
Et, voilà. Et c'est quelque part assez fort dans le contexte politique que tu as décrit tout à l'heure. Je pense que c'est encore plus parlant. Et c'est pour ça que le film, d'ailleurs, a eu un certain succès dans son pays, en fait. Parce que ça, c'est des questions, je pense, qui sont très, très actuelles dans la façon dont on peut penser la situation politique dans laquelle se retrouve l'Argentine.
Bah oui.
Et une situation dans laquelle la philosophie s'est donc pensée, et donc où le fait de penser est beaucoup plus est beaucoup moins mis en avant dans les politiques d'extrême droite. Et donc je trouve que c'est des films qui ont leur grosse importance, et c'est et ont quelque part un côté un peu révolutionnaire, quelque part un peu, c'est un peu un gros mot que j'utilise, mais
c'est ce qui se passe à la fin du film, d'ailleurs, que de toute façon, l'extrême droite, on sait bien qu'elle éradique la culture, elle baisse les heures de cours de philosophie dans les classes, qui sont... C'est vrai que la philosophie, c'est essentiel, en fait, dans l'existence.
C'est l'art de la pensée, en fait. Voilà. Donc, c'est apprendre à analyser ce que tu vis, ce que tu vois, le penser, le théoriser, etc. Et d'où le fait que je trouve que il y a un regard très caustique auprès du j'ai plus son nom, mais de son collègue philosophe très qui a pris la philosophie comme quelque chose de très
Lukaku,
voilà, très de
Raphaël, oui, c'est ça,
de très, comme tu disais le mot paillette, je pense que c'est bien le mot. Et je pense qu'il est très le réalisateur, le couple de réalisateurs, je pense, est très critique, je pense, avec cette façon de penser la philosophie. Je trouve, dans la façon dont c'est montré, je sais pas ce que tu en as pensé, mais
oui, il est même avec l'argument que c'est une comédie sociale et burlesque, il est pris aussi là dans ce genre là c'est-à-dire que il est presque ridicule. Il se fait valoir à la télévision en étant l'amoureux d'une célèbre actrice. Enfin, il est dans le move, quoi.
Oui, c'est une célèbre actrice américaine, je sais plus, ou argentine. Mais une grande actrice populaire.
Voilà, c'est ça. Ah, ouais. Et donc, c'est pris dans le burlesque, mais aussi le tragique de ce que ça représente. Mais aussi, un amoureux de la philosophie. Bon, on peut pas lui retirer ça non plus.
Oui, mais bien sûr. Mais tu sais, voilà, il a pris un chemin peut-être plus facile, dit quelque part dans la façon que la philosophie est traitée, parce que c'est quelque part une philosophie qui dérange pas, en fait, dans des situations politiques comme celle-ci. C'est une façon de penser la philosophie qui ne fait pas vraiment avancer les choses et qui ne permet pas d'avoir un regard complet. Donc c'est une fille qui dérange pas, donc c'est là-dessus que je pense qu'il y a un regard aussi un peu critique, et que le personnage est représenté de toute façon un peu caricaturale dans la façon dont l'acteur le joue aussi. Il joue de façon très très énergique, très exagéré dans la façon aussi. Il joue presque un rôle dans la vraie vie, quoi, disons. Voilà, mais...
Et comme il n'a pas vraiment de problème de salaire, vu que il va sans doute continuer d'enseigner en Allemagne, etc. Du coup, il n'aura pas la chance d'aller donner des cours chez les autochtones, dans les favelas.
Oui.
Et donc, du coup, de transformer vraiment la philosophie en quelque chose de... en une connaissance et un questionnement qui s'adresse à des gens qui ne sont pas forcément des universitaires.
Mais c'est ce que je dis, une philosophie qui n'est pas utile, qui ne sert pas, qui du coup forcément ne dérange pas, donc du coup qui se laisse faire, mais voilà. Mais, et donc c'est assez intéressant, ça questionne beaucoup effectivement la place qu'a la philosophie là, parce que je trouve ça, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je trouve ça très parlant et actuellement, de la façon dont on voit bien comment est traitée la philosophie aujourd'hui, elle est à la fois très présente, et en même temps, elle l'est plus du tout. C'est-à-dire que on voit beaucoup de philosophes passer dans les médias, énormément, en tout cas de personnes qui se proclament philosophes, parce que je pense que c'est pas forcément une vérité chez tous ceux qui se le proclament, mais je ne citerai pas de nom dans cette émission.
Elle reste très académique et très guindée, on va dire, et qu'elle ne s'adapte pas à l'existence de tout le monde, c'est vrai qu'elle rate quelque chose.
Elle rate quelque chose. Alors moi, j'ai rien compris. Alors c'est pas forcément présent dans le film, mais si je fais une aparté, moi je pense que la philosophie, en plus, au-delà, la philosophie dès qu'on la présente actuellement dans le cercle médiatique, j'irais presque showbiz, j'ai envie de dire, c'est aussi une philosophie qui sert un peu le pouvoir en place quelque part.
Ouais.
Et donc c'est ce qui est à mon sens très... c'est un gros contresens de ce que doit être la philosophie, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas épouser un pouvoir mis en place, mais au contraire, le penser, le questionner, le remettre en question, souvent, en fait. Mais, voilà. Mais bon, ça, c'est une aparté
C'est bien parce que c'est pour dire que ce film, il fait réfléchir.
Tout à fait, ouais,
il fait réfléchir. Et c'est vrai que la comédie, elle est... C'est des micro-situations burlesques, on va dire, mais ça marche.
Ça marche, et puis, on est comme dit dans le sens où le film n'aborde pas ces thématiques de façon tragique. Il y a un côté un peu tragicomique, rien que la situation de départ, on parle de la mort de quelqu'un, c'est ça qui est le déclenchement des retrouvailles plutôt de ces deux philosophes. Ça part sur la mort de quelque chose. C'est rigolo ce que tu as parlé de la mort d'une certaine philosophie. Je trouve ça du coup assez parlant que ça démarre sur la mort d'un philosophe, le démarrage du film. C'est un aspect plutôt tragicomique, mais bon, qui à mon sens de ce qui rend les comédies encore plus intéressantes, en fait. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est que les comédies permettent de poser des sujets politiques très sérieux. Enfin voilà, ça a toujours été fait, hein, Molière. Je vais pas expliquer comment faisait Molière, mais c'est exactement ça aussi. Voilà, qui lui se servait en plus d'appartenir à la cour du roi pour pouvoir les critiquer de l'intérieur. Voilà, mais
ça fait parler. Hein, voilà. En tout cas.
En tout cas, ça fait parler. Voilà.
El Professor,
il y a qu'un seul S, donc je sais pas comment ça se prononce. Si ça dit El Professor ou voilà.
Ah oui, je connais pas l'espagnol, mais
moi non plus. Mais bon, Le Professeur, je pense qu'on peut le traduire comme ça.
Voilà.
Donc c'est un film qu'on vous recommande du coup très chaudement, qui sera au cinéma Les Lobbies à partir du 11 septembre. Soyez attentifs sur le site des Lobbies pour et sur notre site de cinéphile, dès hier, en fait, parce qu'on enregistre l'émission un peu en décalé, mais dès hier, vous pourrez retrouver les séances de la semaine sur notre site et sur le site des Lobbies. Donc voilà, n'hésitez pas à surveiller ces séances-là, parce que nous recommandons très chaudement ce film. Voilà.
Voilà.
Est-ce que tu as un petit dernier mot, Martine? Si t'en as pas, c'est pas grave.
Hein. Je sais pas, la vie continue.
La vie continue, c'est beau, c'est parfait. Et ben, tout de suite, je vais retrouver Sylvie qui fait son baptême au micro pour pouvoir parler d'un film qui me tient très à cœur de vous en parler, qui s'appelle Gondola. Voilà, à tout de suite. We'll be right back. Eh bien, nous nous retrouvons, après avoir entendu l'extrait musical ou la bande-annonce, mais c'est un peu la même chose, vous allez le voir quand on va parler du film Gondola. Pourquoi est-ce qu'on entend surtout de la musique dans cette bande-annonce? Parce que c'est un film qui est vraiment basé uniquement sur la poésie visuelle et où il n'y a strictement aucun dialogue à proprement parler dans le film. Mais bon, voilà, nous allons parler de Gondola, de Weitelmer, et avec moi, j'ai Sylvie, qui fait son baptême à la radio, pour en parler avec moi. Bonjour Sylvie, comment ça va?
Bonjour, ça va bien.
Ça va? Alors, que j'explique un peu de quoi parle Gondola et de Weitelmer. Donc, c'est l'histoire d'une rencontre entre deux jeunes filles qui voilà, s'occupent d'accompagner des trajets en funiculaire. Voilà, ce qu'on a, les Gondola, on appelle ça en allemand, parce que c'est un film allemand. Donc c'est une histoire d'amitié qui va se créer, puis une histoire un peu d'amour, et au fur et à mesure des passages qui se font, et à chaque fois ils trouvent une petite idée de séduction supplémentaire chacune pour jouer l'une avec l'autre. Alors ça passe sous divers choses, mais j'ai pas envie de vous les dévoiler, vous verrez quand vous irez voir le film. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un film qui est extrêmement basé sur son visuel. Voilà, où les trajets, il n'y a pas besoin de parler pour qu'on comprenne les réactions entre les personnages. Les trajets qu'on nous montre le disent d'eux-mêmes. Et voilà, c'est une vraie influence très presque du muet. Il y a un peu du côté du cartoon, etc. Voilà, Sylvie, tu as vu le film avec Godefroy.
Voilà, j'ai vu le film et ça nous a vraiment bien plu. Je crois qu'on s'est laissé surprendre par ce que tu décris, c'est-à-dire que du coup, c'est d'abord un format très court.
Oui, il dure 1h22 le film. Ouais.
Voilà. Et puis ce côté comme ça, sans mots, parce qu'il y a à la fois beaucoup de poésie visuelle, mais il y a aussi beaucoup de poésie sonore. S'il n'y a pas de mots, il y a tout un langage qui vient mettre en œuvre ou en scène tous les bruits quotidiens. En tous les cas, il y a toute une petite musique qui se crée avec ça. Mais c'est pas sans langage et sans échange et sans dialogue, en fait. C'est ça qui nous a aussi beaucoup plu. Du coup, il y a un format particulier, effectivement, pas de mots, des couleurs assez vives, alors c'est soi-disant, ça se passe en Géorgie, mais... il n'y a pas forcément grand-chose qui nous l'indique.
Ça pourrait se passer n'importe où.
Et voilà, c'est ça. C'est ce que j'aurais envie de dire. C'est que du coup, ça devient un conte un peu universel. Quoi. Avec peut-être, effectivement, il y a une histoire d'amour. Mais moi, et nous, j'ai envie de dire avec Godefroy, ce qui nous a vraiment touchés, c'est qu'en fait, c'est aussi une histoire de rencontre. Avec le hasard de la rencontre qui pourrait se faire, la rencontre qui ne pourrait pas se faire. À quel point ça peut être fragile, mais ça peut être aussi très riche.
Puis c'est très poétique dans la façon que c'est utilisé dans un funiculaire où en fait la rencontre elle se fait que l'espace d'un croisement en fait. Il faut profiter de ce croisement justement autant qu'on peut. Et après, ben, ça tient sur un fil comme le fil du funiculaire.
C'est ça. Un temps suspendu.
Hein,
on trouve que c'est bien Enfin, le funiculaire vient bien parler de ça, quoi, de cette suspension qui peut être à la fois suspendue dans un monde qui est actuellement plutôt très répressiogène, j'aurais envie de dire, avec la guerre un peu partout et quand c'est pas la guerre, c'est autre chose.
Rien de rassurant, la globalité, voilà. Surtout. Oui, oui.
Hein, où on pourrait commencer à se dire que l'humain n'est capable que de ça. Alors que là, en fait, c'est suspendu. Alors, ça nous suspend un peu dans un moment comme ça, un peu de poésie. Oui, je trouve que moi, c'est vraiment, je trouve ça très poétique. Mais suspendu dans le sens où ça pourrait être dans n'importe quel lieu du monde et dans n'importe quel moment, quoi.
Oui, n'importe quelle époque aussi. Voilà, enfin, c'est un film qui a vraiment quelque chose d'intemporel, et c'est ce qui... Moi, c'est ce qui me marque dans ces films-là, dans des films comme ça. C'est quand un film est capable d'être vu à n'importe quelle époque, n'importe quel moment, et sa puissance et son message sera toujours aussi fort. Et oui, t'as dit justement, oui, j'ai dit effectivement c'est sans dialogue, mais exactement pas vraiment non plus. C'est-à-dire que les personnages parlent entre eux, il y a une sorte de grommelot un petit peu, je trouve, qui est utilisé dans certains... on entend des sons, il y a un personnage dans le film qui me fait vraiment penser à un personnage vraiment du vieux muet de Chaplin, vraiment du cartoon, ce personnage qui est leur patron en fait, qui dirige, qui va se mettre un peu entre elles deux, entre leurs relations, enfin voilà, c'est il y a quelque chose, le film est vraiment aussi assez drôle, quoi. Je dirais pas qu'il y a des grands moments de rire, mais le film a une atmosphère qui fait qu'on se sent bien pendant cette 7h22 de film, quoi.
C'est ça, on sort en souriant, quoi.
Ouais, exactement.
Hein, c'est un peu caricatural, mais c'est pas très grave.
C'est un conte.
C'est un conte, c'est ça. Hein, ça donne un aspect conte. Alors c'est pas vraiment, ça va pas jusqu'au conte philosophique, mais il y a des éléments quand même sur l'humanité, sur le hasard que je disais tout à l'heure de la rencontre. Ça se fait ou ça se fait pas. Des fois ça pourrait s'arrêter, puis en fait l'énergie vitale, l'élan vital peut ramener à ce que ça recommence. Il y a du soutien de fraternité. Moi, c'est vraiment des choses qui du coup nous ont permis de... Je trouvais que c'était un bon film de rentrée. J'avais dit comme ça, en disant bon, ça amène à un cinéma qui peut encore ne pas parler que des sujets graves.
Oui, ça fait du bien. Alors c'est vrai que nous-mêmes, dans notre programmation de cinéphile, nous-mêmes, des fois, on s'en fait la remarque qu'effectivement... on propose des films qui souvent amènent des sujets assez lourds et bien que très intéressants, mais des fois c'est pas forcément évident d'en enchaîner dans une même programmation. Et donc là on est assez content. Alors on a parlé d'El Professeur aussi juste avant avec Martine, qui est un film qui certes parle de sujets quand même très sérieux, mais sous un ton vraiment assez léger. Là on est vraiment c'est ça, le mot bulle, le mot capsule, je trouve, capsule de temps, en fait, ce film est une petite bulle dans laquelle vous allez vous sentir dans un autre univers quelque part. C'est-à-dire que le film est à la fois universel sur son lieu, mais en même temps, on a l'impression qu'on est un peu ailleurs. Je trouve dans la façon, il y a un côté très dépaysement dans ce que cherche à faire le film, notamment le fait que ces gondoles, ces funiculaires, prennent plusieurs aspects au fur et à mesure du film. Ça peut être, des fois, c'est un bateau, il le déguise en bateau, des fois, ça peut être un lieu romantique, etc. Enfin, il prend, ces petites bulles prend plusieurs formes, et voilà, ça, je trouve que c'est effectivement à la rentrée d'avoir un film qui permet ça, ça fait du bien, je trouve, de commencer la rentrée comme ça, après certaines nouvelles pas forcément simples qui nous ont été annoncées, qui arrivent actuellement, dans une actualité assez... c'est assez compliqué, ça fait du bien, je pense, d'avoir ces petites bulles-là, quoi, voilà, qu'on vous propose.
Absolument. Et puis, je trouve que, du coup, moi, ça fait partie de ces éléments qui me font dire que c'est un bon film, c'est que je m'en suis souvenu longtemps après, avec des petites images qui me revenaient. Et voilà, ça occupe un espace, finalement, assez important.
Oui, tout à fait. Un petit mot sur le réalisateur aussi, qui s'appelle Weitelmer, du coup, que moi, je ne connaissais pas du tout, mais qui est en Allemagne. Est assez reconnu, en fait. C'est un cinéaste qui même si c'est son seul film qui est vraiment autant basé sur la non-parole, on va dire, et c'est quand même un réalisateur qui aime explorer cet univers-là. c'est C'est quelqu'un qui met vraiment en scène des contes, etc. Donc c'est un cinéaste qui malheureusement n'a pas bien été exporté ailleurs qu'en Allemagne. C'est un des rares films qui sort de lui qui sort en France. Mais il fait du cinéma depuis les années 90, donc voilà, c'est quelqu'un qui est bien installé. Donc voilà, c'est toujours souhaite de découvrir un auteur comme voilà d'un pays dont des fois on exporte peut-être pas assez certains de leurs films, et ça fait du bien d'avoir un film allemand qui ne parle pas forcément des mêmes sujets. Parce que je trouve que le cinéma allemand, quand il s'exporte en France, c'est souvent pour nous parler soit de la guerre froide ou soit de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, ça fait du bien d'avoir aussi d'autres choses à découvrir dans le cinéma de ces pays-là. Je ne sais pas si tu as un petit mot à rajouter sur le film, Sylvie.
Non, parce que je crois qu'il faut se laisser surprendre. Enfin, ouais. On s'est laissé surprendre, nous, et je crois qu'il faut surtout garder l'effet de surprise.
Oui,
quand on va le voir,
je suis d'accord.
J'ai envie de m'arrêter là.
Eh bien parfait, je suis d'accord avec toi. Du coup, on va s'arrêter là ensemble. Eh ben, je te remercie Sylvie d'être venue pour la première fois en parler. Ça va, ça s'est bien passé?
Je veux dire que c'était avec plaisir que j'ai fait ça.
Eh bien super, c'était avec plaisir en tout cas d'enregistrer avec toi aujourd'hui. Voilà, merci. Bah, écoute, à une prochaine fois j'espère.
Absolument, à bientôt.
Eh bien je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et de très bons films. Au revoir.